des rétro ananas.
Je suis désolé, je comprends pas.
Attends, je t'explique.
Sur Radio Chablais.
Ah, bah c'est tout de suite beaucoup plus clair.
Les mystères de l'univers. On parle d'énergie noire, on parle d'énergie sombre, de matière noire. Camille Bonvin, vous qui êtes cosmologiste, et professeur associé à l'université de Genève. Est-ce qu'on pourrait dire, parce que vous expliquez tout à l'heure que voilà, on voit un effet. On pense qu'il doit y avoir autant de la matière noire que d'énergie sombre parce que ça ne colle pas avec notre observation de l'univers. Est-ce que c'est un peu comme si on jetait un pavé dans la mare? Moi, je jette un caillou dans une mare. Vous ne voyez pas le caillou couler, mais qu'après, vous voyez les ondes derrière. Vous vous dites forcément, il y a dû y avoir quelque chose. Est-ce qu'on pourrait comparer à ça?
Exactement. C'est tout à fait ça. Donc, on observe la matière qu'on peut voir. Donc, dans votre exemple, c'est en fait l'eau du lac, par exemple. Et puis, on regarde comment elle se comporte. Et il y a un comportement qu'on ne comprend pas, et donc on cherche la cause de ce comportement. Dans votre cas, c'est le caillou, et puis dans notre cas, c'est la matière noire et l'énergie sombre. Donc c'est exactement ça.
Et d'autant plus, vous parliez tout à l'heure d'Einstein, qui dit, selon la théorie générale de la relativité, l'univers est en expansion, ok, bon ça en plus, il lui a fallu un moment pour l'admettre.
Oui, tout à fait. Alors en fait, Einstein, lui, il n'aimait pas ça du tout. C'était une prédiction de sa théorie. Et quand Friedman a appliqué les équations de la relativité générale à notre univers, il a prédit que l'univers n'était pas statique. Einstein, lui, il n'aimait pas ça du tout. Donc en fait, il a essayé de changer sa théorie. Il a rajouté un nouvel élément à sa théorie qu'on appelle une constante cosmologique.
C'est un peu un chiffre qu'il a inventé.
Exactement. Une constante qu'il a mis là. Il a ajusté la valeur de cette constante très précisément pour trouver un univers qui était statique. Et puis en fait, donc, il était content pendant quelques années, mais il a assez vite déchanté parce que quelques années plus tard, il y a Lemaître et Hubble qui ont observé que l'univers est bel et bien en expansion et donc que sa théorie prédisait bel et bien ce qui a été finalement observé.
Et il a dit que pour lui, c'était un moment d'épiphanie, vraiment, c'est un des moments les plus heureux de sa vie. Mais n'empêche que cette théorie, elle dit que l'univers doit continuer son expansion, mais de plus en plus lentement.
Oui, exactement.
Même pas constamment.
Non, alors l'idée c'est que s'il n'y a que de la matière et de la radiation, de la lumière dans l'univers, cette expansion va en fait ralentir. Et intuitivement, on arrive assez bien à comprendre ça. C'est juste que la matière, les choses qu'il y a dans l'univers sont attractifs. Donc on a en fait ce mouvement d'expansion, mais cette matière va avoir tendance à freiner cette expansion. Donc l'univers grandit, mais de plus en plus lentement à cause de la matière qui est à l'intérieur et qui freine son expansion.
Et là, ce n'est pas du tout ce qui arrive. Donc on est en train de contredire un des plus grands scientifiques de l'histoire. Ben après, pas qu'on est un des plus grands, qu'on a forcément raison surtout, mais voilà, on est en train de chercher à voir où est-ce que ça cloche, finalement.
Exactement. Et donc, en fait, il y a deux pistes qu'on explore. Donc, la première, c'est de se dire, la chose qui cloche, c'est quand on dit qu'il n'y a que de la matière et de la radiation dans l'univers, peut-être qu'il y a quelque chose d'autre, et donc on explique l'expansion accélérée en rajoutant cette énergie sombre dont je vous ai parlé, et on peut calculer de combien d'énergie sombre on a besoin pour expliquer les observations. Et on voit qu'on a besoin de 70% d'énergie sombre. Donc ça voudrait dire que la majorité du contenu de notre univers serait cette énergie sombre.
Donc si on met toute la matière, toute l'énergie, tout ce qu'on a, que ce soit la lumière du soleil, tout, les soleils, les planètes, l'espace, 70% serait de l'énergie sombre.
Exactement.
On appartiendrait à un pourcentage, combien? La matière, ce serait combien là-dedans?
Alors la matière totale, ça serait 30%, mais la matière qu'on connaît, elle, ça serait seulement 5%. Et les 25% suivants, ça serait de la matière noire. Donc vous voyez, ça veut dire que 95% de l'univers est inconnu.
Bon, bah vous avez encore du job. On est, les scientifiques, c'est bon, mais les cosmologistes en particulier, vous avez du job assuré. C'est super. Et le délire, c'est que, on cherche, donc on pense que c'est. Quelles sont les pistes qu'on a? Parce que l'énergie, ok, l'énergie sombre et la matière noire, ok. Mais est-ce qu'on a des idées? Est-ce qu'on a des intuitions de ce que ça pourrait être exactement?
Alors on a des modèles, on a des théories. En fait, pour la matière noire et pour l'énergie sombre. Donc, on rajoute un nouvel ingrédient dans l'univers. En général, on rajoute ce qu'on appelle un champ dans l'univers. Et ce champ, par exemple, pourrait être l'énergie sombre. Et puis, il y a aussi une autre piste qu'on explore. Parce que vous parliez d'Einstein. Est-ce qu'on remet en question la théorie d'Einstein? Donc, ça, c'est en fait la deuxième piste qu'on explore. Il y a des scientifiques qui se disent, ah, mais peut-être que cette énergie sombre, elle n'existe pas. On a l'impression qu'elle existe parce qu'on a les mauvaises lois de la gravitation. Peut-être que la théorie d'Einstein, qui marche très, très bien dans le système système solaire, à l'échelle de la galaxie. Peut-être qu'à très grande distance, elle ne marche plus. Et donc, peut-être qu'il faut changer les lois de la gravitation à grande distance. Et il y a des théories qui ont été construites qui sont capables d'expliquer l'expansion accélérée de l'univers sans avoir besoin d'énergie sombre. Donc, on a en fait ces deux pistes qu'on explore en parallèle. Et pour l'instant, on ne sait pas laquelle est correcte.
Donc, ce serait voilà, un effet qu'on peut observer, à l'œil nu, ou en tout cas dans des distances qui sont plus ou moins encore humaines à notre niveau cosmologique, en fait, ne serait plus du tout valable à partir d'une certaine distance.
Exactement.
C'est vraiment ça.
Exactement, c'est tout à fait ça, oui.
Et donc ça pourrait, c'est complètement dingue, ça pourrait avoir un effet inverse. En fait, c'est comme si on était dans une, j'allais faire de la science un peu pour débutants, mais c'est comme si tout d'un coup on pouvait avoir un effet inverse. En fait, un effet qu'on voit, qu'on observe, pourrait avoir un effet inverse à partir d'une certaine distance.
Oui, donc l'idée c'est que si on change les lois de la gravitation, on n'a plus le même lien entre distance et intensité de la gravitation. Et donc si on change ces lois à très grande distance, on peut en fait avoir une expansion accélérée. Mais la difficulté, c'est qu'il faut quand même retrouver les lois qu'on connaît bien sur Terre et dans le système solaire, parce que la relativité générale, elle a été testée très précisément dans le système solaire. Donc si on change les lois de la gravitation, on doit les changer de manière à avoir quelque chose qui se comporte comme la relativité générale dans le système solaire.
En deux mots, il faut que ça colle.
Exactement, il faut que ça colle dans le système solaire et il faut que ça explique l'expansion accélérée. Donc c'est pas facile.
D'autant plus qu'il y a des lois, je sais que ben voilà, quand on rentre aussi dans la physique de particules, il y a des choses qui fonctionnent à grande échelle, justement, à l'échelle de l'univers ou de notre planète, puis qu'après fonctionnent plus quand on est à des échelles plus que microscopiques, infinitésimales. Du coup, ça a du sens de penser que peut-être qu'à une échelle encore plus grande, ben ça, c'est ça qui fait que ça marche pas. Est-ce qu'on a une théorie qui serait plus valable qu'une autre, qui mérite plus la peine d'être suivie ou pas vraiment?
Dans les théories de gravitation modifiée, je dirais non, pas vraiment en fait. Et c'est pareil pour l'énergie sombre. On a tout un tas de théories qui marchent bien, qui ont des problèmes, des avantages. Il n'y a pas une qui sort du lot où tous les scientifiques diraient « Ah oui, ça c'est la bonne solution ». Donc maintenant, on est vraiment dans une période où on cherche. Et en fait, ce qu'on fait pour avancer, donc il y a bien sûr les théoriciens qui construisent des nouvelles théories. Et puis il y a aussi... ce qui est important, c'est de confronter ces théories avec les observations. Et je crois que c'est ça finalement qui va trancher et qui va nous permettre d'aller vers la bonne théorie. C'est de confronter les prédictions de chacune de ces théories avec les observations qu'on a, qui sont absolument fascinantes, hein, parce que maintenant on a des missions cosmologiques incroyables qui observent le ciel et qui vont nous permettre de tester ces théories et puis de pouvoir en fait faire un petit peu le ménage finalement, se dire bon bah celle-là elle ne marche pas,
ouais.
Faire le tri, exactement.
Ouais, est-ce que vous pourriez juste pour nous faire rêver, nous expliquer justement une de ces missions cosmologique qui nous permettrait de détecter ou de trouver la solution à ce mystère?
Oui, alors par exemple, il y a le satellite Euclide qui a été lancé maintenant il y a un peu plus d'une année, donc c'est un satellite spatial et qui va observer des galaxies depuis l'espace. Et l'idée de ce satellite, c'est de mesurer la forme des galaxies très précisément. Et avec ceci, on peut savoir en fait quelle est la distribution de matière dans l'univers et aussi comment le temps et l'espace sont déformés dans l'univers. Parce que quand on a de la matière, ça déforme l'espace et le temps, selon la théorie de la relativité générale. Et ça dévie la trajectoire de la lumière. La lumière ne voyage plus en ligne droite, mais elle suit en fait ses aspérités, si vous voulez, dans la structure de l'univers. Et la conséquence, c'est que ça change un petit peu la forme des galaxies. Ça les rend un petit peu plus elliptiques ou un petit peu moins elliptiques que ce qu'elles sont en réalité. Et donc le but d'une mission comme Euclide, c'est de mesurer très précisément la forme des galaxies pour pouvoir ensuite en déduire les déformations de l'espace et du temps et typiquement voir si ça colle avec les prédictions de la théorie d'Einstein ou pas.
C'est complètement dingue. On arrive à inventer des appareils. Notre cerveau arrive à concevoir des appareils qu'on met dans l'espace et qui arrivent à mesurer. C'est quoi l'ordre de grandeur, de précision pour mesurer une galaxie ?
Alors en fait, donc la taille des galaxies elles-mêmes, bien sûr, elle est toute petite dans le ciel, hein, parce qu'on regarde des galaxies qui sont extrêmement lointaines, et puis on regarde des changements dans la forme de ces galaxies qui sont de 0,1%, donc 1 pour 1000. C'est vraiment des toutes petites déformations. Et en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on n'est pas capable de le faire sur une seule galaxie, aussi parce qu'on ne connaît pas la taille initiale de la galaxie, donc si on regarde une seule galaxie, on ne sait pas si elle a été déformée ou pas. Ce qu'on fait, c'est qu'on observe en fait des millions, même des centaines de 2 millions de galaxies et on regarde comment leurs formes sont corrélées dans le ciel. Et ces corrélations vont être dues à cette déformation de la trajectoire de la lumière. Donc c'est pour ça que c'est très important d'observer énormément de galaxies sur des très très grandes parties du ciel, parce que c'est seulement en ayant ces statistiques-là qu'on arrive finalement à détecter des effets qui sont extrêmement petits.
Je pourrais vous poser des questions pendant des heures, Camille Bonvin. Vraiment, merci infiniment d'être venue, parce que bah voilà, c'est pas souvent que j'ai l'occasion d'avoir, j'allais dire une vraie scientifique, non, oui, une personne qui est vraiment professeur, hein, quand même associée à l'Université de Genève, cosmologiste. Je crois que c'est la première fois. J'ai adoré. Merci infiniment d'être venue. Et puis je rappelle, une conférence, c'est ce soir à 20h à la salle des Combles, à l'École de Commerce et de Culture Générale de Monté. Les mystères de l'univers. Vous répondrez plus. En profondeur à cette question. Merci beaucoup d'être venu.
Mais merci à vous.
Je rectifie encore une fois, hein, c'est à la salle du théâtre, à l'École de Culture, de Commerce et de Culture Générale de Monté ce soir à 20h.